Radio Okapi. Parité et famille. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans Parité et Famille de ce jour. Je suis Nicole Koudiangela. Alors aujourd'hui, nous allons parler du protocole à la Charte africaine de droits de l'homme et de peuples relatifs aux droits des femmes, dit protocole de Maputo. Nous allons faire un focus sur cette charte qui est venue renforcer les droits des femmes en Afrique. Mais où en est-on avec cette charte en République démocratique du Congo qui a adhéré à ce protocole depuis 2008? Le magazine Parité et Famille d'aujourd'hui se consacre justement à cette question et nous allons en savoir un peu plus sur cet instrument juridique. Merci donc de nous accepter chez vous et sans plus tarder, nous allons donner la parole à Monsieur Arthur Mulunda, expert juridique et genre. Il est également avocat au barreau de Kinshasa Matete et il va nous parler donc de cet instrument pour que nous puissions un peu comprendre ce qu'il en est.
Le protocole de Maputo n'est qu'un instrument juridique, mais seulement c'est un instrument juridique exceptionnel parce que dans cet instrument juridique-là, ça ne valorise que les droits de la femme. C'est pourquoi tantôt moi j'appelle ça un protocole discriminatoire à l'égard de l'homme, mais d'une manière positive. Et donc quand vous lisez même les contenus de ces protocoles-là, on fait allusion qu'aux droits liés à la femme. C'est-à-dire qu'on ne parle que des droits liés à la femme. Et les contenus de ces protocoles de Maputo, il est important également de retenir que lorsqu'on parle du protocole de Maputo, déjà il faut comprendre que dans son ensemble, le protocole de Maputo est constitué de 8 thématiques. Et la première thématique, c'est sur l'égalité et la non-discrimination. La deuxième thématique, c'est sur la protection des femmes contre la violence. Troisième thématique, c'est sur les droits relatifs au mariage. Quatrième thématique, c'est sur les droits à la santé et à la reproduction. Cinquième thématique, c'est sur les droits économiques, sociaux et culturels. Sixième thématique, c'est sur les droits de la paix. Septième thématique, c'est sur la protection des femmes dans les conflits armés. Et la huitième thématique, qui est la dernière thématique, ça aborde que les questions liées aux droits des groupes de femmes bénéficiant d'une protection spéciale. Et lorsque je parle d'une protection spéciale, allez-y vite comprendre qu'il s'agit des femmes vivant avec handicap, et des femmes âgées, des veuves, tout ça. Elles entrent dans ces paniers-là de personnes bénéficiant d'une protection spéciale. Alors, chaque thématique est composée de quelques dispositions. J'ai dit tantôt ici, la première thématique, c'est sur l'égalité et la non-discrimination. C'est-à-dire, s'il faut pénétrer une fois de plus la première thématique, vous allez comprendre que toutes les dispositions qui sont reprises dans cette thématique-là n'abordent que les questions liées à la non-discrimination à l'égard de la femme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la femme ne peut plus être le sujet d'une discrimination sous toutes ses formes. Tout ce qui était discrimination orientée vers la femme, le protocole de Maputo nous a donné déjà la réponse que la femme ne doit plus faire l'objet d'une quelconque discrimination. La deuxième, c'est sur la violence. Toutes sortes de violences que vous les savez là, toutes ces violences-là, en tout cas, la femme doit être exemptée. Troisième thématique, c'est sur le mariage. C'est-à-dire aujourd'hui, la femme a les mêmes droits, par exemple, d'aller tenter une action en divorce devant le tribunal. Il ne revient pas seulement à l'homme. Lorsque la cohabitation devient, par exemple, impossible et que l'une des parties n'arrive plus à supporter l'autre, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, c'est-à-dire Mutuna Mutu a le droit d'aller devant une juridiction compétente pour que cette affaire soit tranchée. et ainsi de suite. La quatrième, c'est sur la santé sexuelle et reproductive. Et c'est là où on retrouve même cette disposition que beaucoup de gens n'acceptent pas sur cette histoire des avortements sécurisés. Et donc, voilà un peu le contenu du protocole de Maputo avec ses 8 thématiques. Voilà.
Monsieur Arthur Matengo, expert juridique et genre, et également avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Chaque pays a ses lois et la République démocratique du Congo a beaucoup d'autres instruments juridiques qui consacrent également les droits humains et les droits des femmes en particulier. Fallait-il encore d'autres instruments juridiques? La réponse avec Dr. Jean-Claude Moulunda, activiste des droits de l'homme, des droits de la femme, directeur pays de IPAS, une ONG internationale qui promeut les droits des femmes.
Il ne s'agit donc pas d'une initiative ou décision isolée, il s'agit d'une analyse approfondie de la situation de la femme en Afrique qui a conduit les experts à comprendre que si nous voulons une femme africaine épanouie, une femme africaine qui contribue au développement local, qui a un impact sur le développement national et que, en somme, tout ceci contribue au développement de notre continent, nous avons besoin de pouvoir garantir à cette femme de droits fondamentaux, de droits basiques qui sont reconnus à chaque individu de par son existence, mais qui malheureusement en Afrique, la femme est souvent exclue et n'en bénéficie pas. Ce qui explique les différents maux et les différentes souffrances et difficultés auxquelles la femme africaine est soumise. Et donc le protocole de Maputo vient pour corriger l'injustice qu'a subie la femme africaine jusqu'ici et qui a empêché son éclosion, qui a empêché le développement de son potentiel, qui a empêché le développement de ses capacités et sa contribution au développement de l'Afrique. Oui, il est vrai qu'au niveau national, nous avons deux lois. Des lois de notre pays, dans le code pénal et d'autres lois. On a la loi sur les principes de santé publique, on a la loi sur les violences sexuelles, on a la loi sur le code de la famille. On a autant de lois qui existent au niveau de pays qui reconnaissent le droit à la femme. Mais le protocole de Maputo vient apporter quelques nouveautés. Parmi ces nouveautés, c'est le droit de santé sexuelle et reproductive. C'est la seule loi au niveau de la RDC, ou du moins au niveau de l'Afrique, qui reconnaît à la femme le droit de pouvoir posséder de son corps, et deuxièmement, de pouvoir décider de quand, de comment, de combien d'enfants elle voudrait avoir, et troisièmement, lui donne la possibilité de faire le choix de garder une grossesse ou de ne pas la garder, dans des conditions bien sûr spécifiques, en cas de viol, en cas d'inceste, au cas où la santé physique ou mentale de la mère est menacée ou lorsque il y a malformation fœtale. Au niveau du pays, le code pénal ne reconnaît aucun cas d'avortement. Et c'est le code de déontologie médicale, dans son article 32, qui reconnaît la possibilité pour une femme de recourir à l'avortement médicalisé, comme on l'appelait à l'époque, donc l'avortement sécurisé, en cas de malformation fœtale ou en cas de danger pour la mère. Mais dans ce cas, il faut une autorisation, un constat fait par 3 médecins et il y a toute une longue procédure autour de cet avortement-là. Mais le protocole de Maputo vient en fait élargir les indications pour les femmes de pouvoir avoir accès à l'avortement sécurisé. Donc, le protocole de Maputo, au-delà des lois internes qui existent dans notre pays, vient en fait renforcer les aspects droits de santé sexuelle et reproductive de la femme et crée donc une nouveauté qui, en fait, manquait jusqu'ici pour pouvoir permettre à la femme de réellement jouir de ses droits.
Jean-Claude Moulunda, directeur pays de IPAS et activiste de droits de l'homme, droits de la femme. D'aucuns se demanderont sûrement quelle est l'essence même de cet instrument juridique, alors que la RDC a des lois qui protègent la femme. Retrouvons encore une fois Dr. Jean-Claude Mulunda, activiste de droits de l'homme, de droits de la femme, directeur pays de IPAS, une ONG qui fait la promotion des droits des femmes.
Oui, il est vrai qu'au niveau national, nous avons des lois de notre pays, dans le code pénal et d'autres lois. On a la loi sur les principes de santé publique, on a la loi sur les violences sexuelles, on a la loi sur le code de la famille. On a autant de lois qui existent au niveau de pays qui reconnaissent le droit à la femme. Mais le protocole de Maputo vient apporter quelques nouveautés. Parmi ces nouveautés, c'est le droit de santé sexuelle et reproductive. C'est la seule loi au niveau de la RDC, ou du moins au niveau de l'Afrique, qui reconnaît à la femme le droit de pouvoir posséder de son corps. Et deuxièmement, de pouvoir décider de quand, de comment, de combien d'enfants elle voudrait avoir. Et troisièmement, lui donne la possibilité de faire le choix de garder une grossesse ou de ne pas la garder, dans des conditions bien sûr spécifiques, en cas de viol, en cas d'inceste, au cas où la santé physique ou mentale de la mère est menacée ou lorsque il y a malformation fœtale. Au niveau du pays, le code pénal ne reconnaît aucun cas d'avortement. Et c'est le code de déontologie médicale, dans son article 32, qui reconnaît la possibilité pour une femme de recourir à l'avortement médicalisé, comme on l'appelait à l'époque, donc l'avortement sécurisé, en cas de malformation fœtale ou en cas de danger pour la mère. Mais dans ce cas, il faut une autorisation, un constat fait par 3 médecins, et il y a toute une longue procédure autour de cet avortement-là. Mais le protocole de Maputo vient en fait élargir les indications pour les femmes de pouvoir avoir accès à l'avortement sécurisé. Donc, le protocole de Maputo, au-delà des lois internes qui existent dans notre pays, vient en fait renforcer les aspects droits de santé sexuelle et reproductive de la femme et crée donc une nouveauté qui, en fait, manquait jusqu'ici pour pouvoir permettre à la femme de réellement jouir de ses droits.
Voilà, docteur Jean-Claude Mulunda, activiste de droits de l'homme et droits de la femme. Alors, des protocoles de Maputo adoptés le 11 juillet 2003 par l'Union africaine, qui a fait l'objet d'une loi numéro 06/015 du 12 juin 2006, autorisant l'adhésion de la RDC à ce protocole et d'un acte d'adhésion à ce même protocole signé par le président Joseph Kabila. Il a donc fallu attendre plus de 10 ans pour voir ce protocole publié enfin au journal officiel. Alors pourquoi la publication au journal officiel est-elle si importante? Nous allons encore donner la parole au docteur Jean-Claude Mulunda, activiste de droits de l'homme, des droits de la femme et directeur pays de IPAS, une ONG internationale qui fait la promotion des droits des femmes.
La publication du protocole de Maputo au journal officiel inaugure en fait le début de sa mise en œuvre. Parce que la seule chose effectivement qui bloquait la mise en œuvre du protocole de Maputo était sa publication au journal officiel. Et comme vous le savez, par rapport à notre système législatif, lorsque une loi n'est pas publiée au journal officiel, vous ne pouvez pas vous en faire prévaloir. C'est lorsque la loi est publiée au journal officiel qu'elle peut être utilisée par tout le système judiciaire, y compris les avocats qui défendent les femmes, par exemple. Et donc, il était important de pouvoir obtenir absolument la publication du protocole de Maputo au journal officiel pour qu'on s'en serve. Et donc, le plaidoyer mené par les organisations de la société civile, les coalitions, les organisations internationales, était de pouvoir soutenir la publication au journal officiel du protocole de Maputo pour que les femmes puissent réellement en bénéficier. Et donc, la publication au journal officiel du protocole de Maputo faisait de ce protocole un instrument juridique national pouvant être utilisé pour à charge ou à décharge. Pourquoi 10 ans après ? Mais lorsque vous faites l'analyse de tous les engagements que la RDC prend au niveau international, il n'y a aucun engagement qui a été pris et mis en œuvre immédiatement. Généralement, les engagements que nous prenons au niveau international prennent du temps. C'est vrai que les gens pensent que le protocole de Maputo a pris plus de temps parce qu'il y avait des articles relatifs à la santé de la reproduction, relatifs à l'avortement sécurisé. Mais personnellement, je me dis, peut-être, mais en réalité, de fait, ça ne devrait pas être cela. Parce que le protocole a été analysé au niveau du Parlement en 2006, article par article. Et le Parlement a voté le protocole article par article et a autorisé le chef de l'État. Et le protocole a fait 2 ans au niveau du cabinet du chef de l'État avant que l'adhésion ne puisse avoir lieu. Donc, ils ont pris le temps de pouvoir le revoir encore. S'il y avait quelque chose dont la RDC voulait avoir de réserve dessus, ils auraient dû le signifier à l'Union africaine. Ils ne l'ont pas fait. Au contraire, ils ont adhéré à 100% au protocole. Et donc, il n'y avait aucune raison de ne pas mettre en œuvre ce protocole. Je pense que le retard enregistré dans la mise en œuvre de ce protocole était tout simplement semblable au retard que l'on enregistre dans la mise en œuvre de tous les autres instruments juridiques internationaux et engagements que la RDC prend au niveau international. Et c'est des choses dont nous pensons qu'effectivement, les gouvernements devraient s'y pencher pour que les engagements que nous prenons au niveau international, que nous puissions en temps réel les mettre en œuvre.
Docteur Jean-Claude Mulunda, directeur pays de AIPAS, une ONG internationale qui fait la promotion des droits des femmes. À présent, parlons de l'applicabilité. Le protocole de Maputo, aujourd'hui publié, ceci entraîne donc des multiples conséquences, entre autres l'applicabilité directe de ce texte. Nous en parlons avec M. Arthur Matengo, expert juridique et genre avocat au barreau de Kinshasa, Matete.
La République démocratique du Congo n'a pas modifié toutes ses lois. Nous avons encore beaucoup de problèmes. Parce qu'une fois que le pays a accepté de ratifier le protocole de Maputo, depuis 2008, et la même République venait de publier ces protocoles au journal officiel, bien que ça nous a pris 10 ans pour que ça soit publié, le 14 mars 2018. Et donc aujourd'hui, on ne doit pas parler d'une partie seulement de nos arsenals juridiques internes, on doit parler de tous nos instruments juridiques internes. On ne doit pas voir seulement les codes de la famille. C'est vrai, le code de la famille a été révisité en 2016. Je fais partie des experts qui ont milité pour la révision de ces codes de la famille. Quand vous lisez ces codes de la famille tels que promulgués en 2016, vous ne trouverez plus des dispositions discriminatoires à l'égard de la femme comme c'était auparavant. Et donc, toutes ces dispositions-là ont été bel et bien élaguées. Et il y a certaines dispositions que nous avions tenté de modifier, c'est comme l'article 444. Avant, c'est l'homme qui protégeait la femme dans son entièreté. Mais aujourd'hui, l'article 444 est clair, qui dit « L'homme est le chef du ménage » et son deuxième alinéa dit « Les époux se doivent une protection mutuelle ». Voilà comment nous avions modifié, pour ne prendre que cet exemple-là. Alors, revenons sur l'apport du protocole de Maputo. Déjà, le protocole de Maputo, non seulement en RDC, mais pour tous les États qui ont ratifié ce protocole de Maputo, on doit se dire que le protocole est venu renforcer les droits de la femme. Voilà l'ajout important d'ailleurs. Comme c'est le seul instrument juridique qui valorise les droits de la femme au niveau régional, et allez-y vite comprendre que c'est un instrument juridique qui est venu renforcer sur nos arsenals juridiques déjà qui existent, nos lois, le droit de la femme. Mais nous avons encore des problèmes, comme je l'ai dit tantôt. Le code pénal livre D, ça doit être modifié. Parce que quand tu lis l'article, par exemple, 165, 178, 178, tout ça, avec tous ces alinéas, vous comprendrez que nous avons encore des problèmes. Et donc, le plaidoyer qu'on est en train de mener pour l'instant, il faut que le code pénal livre D soit révisité afin de s'adapter à l'esprit même du protocole de Maputo. Entre autres, il y a même la loi cadre sur la santé publique qui a été promulguée en 2018 ici. Mais cette loi-là, bien que c'est une nouvelle loi, ça contient encore des problèmes. Quand tu lis la loi cadre sur la santé publique, cette loi n'a pas repris les 5 conditions telles que fixées par le protocole de Maputo. C'est une loi qui se limite d'autoriser les médecins de procéder aux avortements lorsqu'il y a un problème ou lorsqu'il y a le fœtus démontre une malformation quelconque. C'est à ce moment-là. Or, non, ce n'est pas ce que le protocole de Maputo dit. Le protocole de Maputo ne se limite pas seulement sur ce qui est repris dans la loi cadre sur la santé publique. On nous parle de ces 5 conditions et on s'attendait que cette loi-là, comme le protocole a été publié au journal officiel et donc la loi cadre sur la santé publique va reprendre les 5 conditions, mais cela n'a pas été le cas. Alors nous voulons que la loi cadre sur la santé publique puisse aussi reprendre les 5 conditions telles que on les retrouve dans le protocole de Maputo. Voilà ce que je peux dire. Donc en bref, le protocole de Maputo est venu renforcer les droits de la femme au niveau d'Afrique pour tous les pays membres et signataires et donc les États qui ont ratifié ces protocoles.
Arthur Matengo, expert juridique et genre avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Et pour terminer, nous allons parler de la vulgarisation de ce protocole. La population ne s'est vraiment pas encore appropriée de ce protocole, encore moins les femmes qui sont très concernées par ce protocole de Maputo. Sans parler des juristes, parce que moi j'ai posé la question à plusieurs juristes qui ne connaissaient même pas la quintessence de ce protocole. Alors nous allons donc en parler avec Madame Bibiche Mbete, qui est membre du réseau des femmes journalistes en santé de reproduction. Et ce réseau se charge également de la vulgarisation du protocole de Maputo. Bibiche, à vous la parole.
Nous disposons de beaucoup de lois nationales ou même des traités internationaux que nous avons ratifiés, mais nous avons le problème de vulgarisation et de mise en application de ces différentes lois. Alors quand il n'y a même pas de politique de vulgarisation de loi, c'est tout à fait normal que la population concernée et même des personnes qui doivent mettre en pratique ces lois, c'est normal que ces personnes ne soient même pas au courant de ces différentes lois qui ont été adoptées ou ratifiées par le pays, parce que nous avons un problème de vulgarisation et de mise en application de ces différentes lois. Par rapport au protocole de Maputo, le protocole de Maputo, il faut dire que c'était un long processus depuis son adoption en 2003 tout le processus mis en place en République démocratique du Congo pour d'abord l'adhésion du pays au protocole de Maputo et ensuite le processus de mise en œuvre, c'était effectivement un long processus. Mais le protocole de Maputo, comme le dit son nom, protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, c'est un instrument juridique de protection des droits des femmes. Des droits des femmes au niveau régional, au niveau de l'Afrique. Mais aujourd'hui, ces protocoles sont domestiqués en RDC du moment où la RDC a signé son adhésion à ce protocole et l'a publié même au journal officiel, comme vous l'avez dit. Depuis 2018, le protocole a été publié dans le journal officiel et nous savons que la constitution de la RDC stipule que les traités internationaux dûment ratifié par la RDC et publié dans le journal officiel, prime sur les lois nationales, prennent un caractère supérieur aux lois nationales. Et donc, ça entre dans notre arsenal juridique. Ils doivent être vulgarisés pour que toute la population soit au courant de toutes ces dispositions que nous mettons dans notre arsenal juridique pour leur application. Donc, le protocole de Maputo, effectivement, comme d'autres lois du pays, souffre d'un problème de vulgarisation. Nous, au niveau du réseau, nous faisons cet effort de vulgariser le protocole de Maputo. Nous sommes un réseau de journalistes, nous sommes engagés dans la promotion des questions relative à la santé sexuelle et reproductive. Et comme le protocole de Maputo reprend dans son article 14 des dispositions relatives à ce domaine, donc la santé sexuelle et reproductive, nous en faisons écho, nous en parlons, nous faisons la vulgarisation de ce protocole qui a 32 articles, qui contient donc 32 articles, et les 32 articles concerne le droit des femmes, protège la femme dans tous les domaines de la vie. Il faudra donc que le gouvernement mette des moyens, notamment c'est à la charge en fait du ministère du genre de vulgariser le protocole de Maputo. Aujourd'hui, le ministère du genre dispose d'un plan de vulgarisation, mais le travail ne se fait pas correctement. Faute de moyens peut-être, ou faute d'organisation, je ne saurais pas donner une réponse claire ou une précision par rapport à cela. Mais le ministère du genre a un plan de vulgarisation, un plan qui a été élaboré au lendemain de l'adhésion du pays au protocole de Maputo. La vulgarisation a démarré ici. À Kinshasa, une campagne de vulgarisation avait été lancée à l'époque avec la ministre Chantal Safo, ministre du genre. Elle avait lancé donc au mois de juillet 2018 une campagne de vulgarisation du protocole de Maputo. Et le gouvernement attendait l'appui des partenaires pour accompagner cette vulgarisation à travers le pays. Le pays est grand et Kinshasa ne représente pas la République démocratique du Congo. Nous avons 26 provinces. La vulgarisation a commencé ici à Kinshasa et nous, journalistes du réseau, nous avons accompagné à travers de reportages, à travers des émissions, mais ça ne suffit pas. Il faut élargir la vulgarisation, il faut étendre, il faut aller plus loin, il faut multiplier de productions médiatiques. C'est vrai que nous souhaitons, et c'est ça même notre souci, que d'autres journalistes emboîtent le pas, que les journalistes s'intéressent à ces questions et qu'ils en parlent pour que la population jusqu'au fin fond de la République démocratique du Congo soit au courant de toutes ces dispositions dont dispose actuellement le pays qui protège le droit des femmes.
Voilà, c'est par là que nous allons donc terminer le magazine d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités. Je vous retrouve dans le prochain numéro de Parité et Famille. Portez-vous bien. Bye.